Bienvenue dans RFI Soir, il est 20h ici à Paris.
RFI Soir, Philippe Le Caplain.
Toute l'actualité du monde sur Radio France Internationale. Le point chaud ce soir, c'est une nouvelle fois le Proche-Orient. 3 jours de deuil national décrétés au Liban après la mort du chef du Hezbollah. De nouvelles frappes viennent d'avoir lieu du côté de l'aéroport de Beyrouth. Les réactions sont très nombreuses, entre autres celle de l'Iran qui avertit que l'assassinat de Nasrallah entraînera la destruction d'Israël. La France se dit opposée à toute opération terrestre israélienne au Liban. Sur RFI, nous allons longuement revenir sur cet événement avec une édition spéciale dans 10 minutes. L'Allemagne et les États-Unis ordonnent l'évacuation des familles de leurs diplomates au Liban, sachant que le Hezbollah reconnaît donc que son chef charismatique, Hassan Nasrallah, a été tué. C'est une mesure de justice pour ses nombreuses victimes, dont des milliers de civils américains, israéliens et libanais, vient de déclarer le président américain. La milice chiite est à genoux ce soir. Paul Ralifé, qui est en ligne de la capitale libanaise, les pertes subies par le Hezbollah peuvent-elles être compensées ?
On serait tenté, Philippe, de répondre par la négative, vu l'importance des pertes qui lui ont été infligées en un si court laps de temps. En combinant les assassinats ciblés et l'intensification des frappes aériennes, Israël a mis une énorme pression sur le Hezbollah. En l'espace de 2 semaines seulement, l'armée israélienne a tué le secrétaire général, Hassan Nasrallah, un nombre encore indéterminé de hauts responsables politiques et militaires lors de la frappe survenue vendredi, et la plupart de ses hauts commandants militaires. En juin et juillet, elle avait réussi à éliminer les chefs de 2 des 3 unités territoriales déployées dans le sud du Liban et le commandant suprême, Fouad Choukri. Il faut ajouter à cela plusieurs milliers de réservistes du Hezbollah blessés dans l'explosion des beepers et des talkie-walkie mardi 17 et mercredi 18 septembre. Et pourtant, même décapité et saigné, le Hezbollah ne semble pas avoir été mis KO. Le parti poursuit ses opérations militaires contre Israël, même si leur rythme a baissé. Ce samedi, il a revendiqué le tir de dizaines de roquettes dans 5 opérations. Ses médias continuent de fonctionner normalement, de même que ses principales institutions sociales. Reste à savoir s'il s'agit d'un baroud d'honneur ou d'une volonté tenace de continuer le combat. Les prochains jours nous le diront.
Paul Ralifé, les réactions sont nombreuses dans le monde, bien évidemment, à commencer dans les capitales arabes. La Syrie et l'Iran décrètent un deuil national. Même chose en Irak, Marie-Charlotte Roupy.
Les réactions sont unanimes en Irak. À Bassora, dans le sud, et à Bagdad, des dizaines de personnes sont sorties dans les rues exprimer leur colère contre l'attaque israélienne qui a mené à la mort de Hassan Nasrallah. Les slogans anti-israéliens et anti-américains sont les mêmes que ceux que l'on entend depuis 1 an lors des manifestations en soutien aux Palestiniens. À Bagdad, quelques minutes après le début du rassemblement près du pont menant à la zone verte où se trouve l'ambassade américaine, les manifestants en colère ont tenté sans succès de forcer le passage barré par les forces de sécurité. Du côté des institutions, le premier ministre irakien a dénoncé un crime par lequel Israël a cette fois dépassé toutes les lignes rouges. C'est selon lui une volonté d'étendre le conflit à toute la région. Sa position est largement partagée par le spectre politique irakien qui craint une guerre totale et demande une intervention internationale d'urgence. En Irak, s'il devait y avoir une escalade, cela pourrait se caractériser par une reprise des attaques contre les positions américaines. Pour exprimer son soutien au Liban, l'Irak a décrété 3 jours de deuil national en hommage à Hassan Nasrallah et des documents de voyage seront accordés aux Libanais souhaitant se rendre en Irak. Marie-Charlotte Roupy, Bagdad, RFI.
Ce succès militaire indéniable pour Israël efface bien ce coup dur pour son économie. Pour la première fois, l'agence de notation Moody's abaisse de 2 crans la note du pays. Raison invoquée, Alexis Bédu, le risque géopolitique justement.
L'abaissement de la note d'Israël était attendu, mais pas à ce point. 2 crans de moins, assorti d'une perspective négative, ce qui signifie que Moody's pourrait très prochainement décider de baisser encore un peu plus cette note. Selon l'agence, le risque géopolitique pourrait avoir des conséquences négatives importantes pour la solvabilité d'Israël à court et long terme. Moody's fait directement le lien entre l'éloignement des chances d'un cessez-le-feu et cette dégradation de la note. Elle critique sévèrement le gouvernement israélien, je cite, « pas assez assez efficace pour prévenir les dommages aux indices de crédit du pays. Retard dans les mesures d'économie, faible croissance et dépenses importantes, l'agence s'attend à un déficit budgétaire d'environ 6% l'année prochaine, au-delà de ce qui avait été annoncé par le ministre des Finances. Conséquence, l'État d'Israël, qui paie déjà des taux d'intérêt beaucoup plus élevés qu'il ne le faisait il y a quelques mois, devra souscrire des prêts encore plus coûteux. Le comptable en chef du ministère des Finances, Yali Rothenberg, dénonce une décision excessive et injustifiée. Il assure qu'Israël sera en mesure, je cite, de gérer avec succès les conséquences économiques de la guerre.
Et concernant ces situations de crise et de guerre, RFI vous propose une édition spéciale pour des analyses et des commentaires juste après ce journal. L'Autriche est gouvernée depuis 4 ans et demi par une coalition dirigée par l'OVP, le parti conservateur, en alliance avec le parti des Verts, une formation de centre-gauche également. Et demain, les législatives pourraient bien mettre fin à cette coalition. Deux partis d'opposition sont en mesure de jouer un rôle prépondérant, les sociodémocrates du SPO et surtout l'extrême droite du FPE, que tous les sondages placent depuis des mois en tête. Le parti est dirigé par un homme dont Isorias nous dresse le portrait.
Herbert Kickl a certes décidé fin 2021 de ne pas renouveler l'accord qui liait son parti avec celui de Vladimir Poutine, mais le leader du FPE ne cache pas pour autant ses positions pro-russes. Il critique les sanctions imposées à Moscou, clame son désir de conserver les approvisionnements de gaz venant de Russie, alors que l'Union européenne s'est engagée à s'affranchir totalement du gaz russe d'ici 2027. Et si l'Autriche, en raison de sa neutralité, n'a jamais livré d'armes à l'Ukraine, Herbert Kickl veut aller encore plus loin en interdisant de laisser passer en Autriche les armes des autres pays européens à destination de Kiev. Le leader du FPE le justifie par une vision très stricte de la neutralité dont il s'érige en défenseur. En réalité, il l'instrumentalise, estime la politologue Birgit Sauer.
Il sait que cette idée de neutralité fait partie de l'image que la société autrichienne a d'elle-même, que les Autrichiens y sont sensibles et donc qu'il peut, avec cela, gagner des voix. Cette idée est très profondément enracinée. Et les autres partis, eux, se dérobent, n'en discutent pas et laissent ainsi le champ libre à Kickl.
Toutes les récentes enquêtes montrent qu'une forte majorité d'Autrichiens souhaitent rester neutres. Isorias, Vienne, RFI.
Encouragés par le retour des travaillistes au pouvoir, plusieurs centaines de Britanniques ont manifesté à Londres pour réclamer le retour du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. Près de 5 ans après le désastre monumental, disent-ils, du Brexit, une marée d'europhiles vêtus aux couleurs bleu et jaune de l'UE a rempli Parliament Square au son de l'Ode à la joie de Beethoven, qui est considéré comme l'hymne européen. Auparavant, tous ces manifestants étaient dans le plein centre de Londres. En France, plus que 3 jours avant le discours de politique générale de Michel Barnier à l'Assemblée nationale. En attendant, le Premier ministre réaffirme qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts pour ceux qui travaillent. Et ce discours est entendu, entre autres, par les centristes du Modem, qui sont réunis pour leur université de rentrée à Guidel, en Bretagne. Victorien Villaume est sur place pour Radio France Internationale.
Au Modem, on a globalement peu goûté les débuts du gouvernement Barnier, mais maintenant...
On attend le discours politique général mardi.
J'attends avec impatience son discours de politique générale.
Bruno Millienne, porte-parole du mouvement démocrate.
On connaît les forces des électeurs en présence. Il y a à peu près 11 millions pour le Rassemblement national, 7-8 millions pour la gauche et un peu plus de 6 millions pour le bloc central. Il faut que le Premier ministre apporte des réponses à tous ces gens-là.
Si la trentaine de députés du groupe soutient officiellement le nouveau gouvernement, il s'autorise toutefois à ne pas voter certains textes à l'Assemblée, à l'image d'Erwan Balanant.
Le message de notre président de groupe, le message de Marc Fesneau, il est clair. S'il y a des textes sur l'immigration qui reviennent sur l'AME, l'aide médicale d'État, on ne va pas voter ça, évidemment.
A contrario, le Modem attend de Michel Barnier qu'il s'engage concrètement sur certaines mesures, affirme la députée européenne Marie-Pierre Védrenne.
Dans notre famille politique, par exemple, la question de la proportionnelle est un élément fondamental pour que toute la voix des Français compte au moment de l'élection et surtout après dans l'exercice du mandat.
Mais pas sûr que le Premier ministre évoque la proportionnelle dans son discours. Le sujet fait polémique au sein de la coalition gouvernementale. Le parti Horizon et les LR sont contre. À Guidel, Victorien Villaume pour RFI.
Un bilan aux États-Unis, au moins 44 personnes ont péri. Des millions d'Américains sont sans électricité après le passage de l'ouragan Helene, ouragan qui a provoqué des inondations massives dans le sud-est du pays. De Tallahassee en Floride à Charlotte en Caroline du Nord, des vents forts et des pluies diluviennes ont provoqué des crues soudaines. Des chutes d'arbres ont soufflé des habitations sur la côte de la Floride. La submersion marine a causé d'importantes inondations avec une élévation du niveau de la mer qui a atteint par endroits plus de 4 mètres. Et demi. Ainsi va le monde. Vous écoutez Radio France Internationale.
RFI, édition spéciale. Philippe Le Caplin.
RFI soir, il est 21h10 à Beyrouth. Trois jours de deuil national décrété au Liban. Le Hezbollah est décapité. Il a fini par le reconnaître au lendemain de la frappe israélienne qui avait dévasté un immeuble servant de quartier général du mouvement libanais dans la banlieue sud de Beyrouth. Son chef charismatique Hassan Nasrallah est mort sous les bombes israéliennes. Jamais depuis l'ancien président égyptien Nasser, un chef arabe n'aura été autant adulé par les foules du Maroc à l'Irak en passant par le Levant et le Golfe. C'est-à-dire l'importance de ce qui se passe, ce qui s'est passé au cours de ces dernières heures. RFI est à nouveau en édition spéciale pour des analyses et des commentaires. Les vôtres, Agnès Levallois, bonsoir. Vice-présidente de l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranéen Moyen-Orient, vous êtes également chargée de cours à Sciences Po Paris. Bonsoir Raphaël Jérusalmi.
Bonsoir.
Vous êtes un ancien officier des renseignements militaires israéliens. Commençons tout d'abord par nous rendre sur place, à Beyrouth, donc, où la nuit est tombée. Rejoignons Abla Junaidi. Alors, quelle est l'atmosphère, Abla, qui règne à Beyrouth depuis que le Hezbollah a fait l'annonce, a reconnu la mort de son chef?
Alors aujourd'hui, oui, effectivement, excusez-moi, j'étais perturbée par le bruit derrière moi. Je suis sur la place des Martyrs au centre de Beyrouth et je suis auprès en fait de familles qui ont fui tout simplement la banlieue sud de Beyrouth hier après la frappe et qui vont passer leur deuxième nuit dehors ici dans le cœur de Beyrouth. L'atmosphère en ville est assez étrange à vrai dire. On est sorti tourner un peu dans la ville après l'annonce du communiqué du Hezbollah et ce qui était très étrange, c'est de voir des rues vides et les magasins fermés, voilà, très peu de mouvements en fin de compte en ville beaucoup de familles dans des voitures qui s'acheminent tout simplement hors de Beyrouth, qui entassent tout ce qu'elles peuvent dans leur voiture et s'en vont. Donc une atmosphère un peu étrange comme ça, beaucoup plus de tension dans les points névralgiques, notamment autour des ambassades. On a vu un déploiement de l'armée qui était inhabituel et qui était posté là avec des membres du service de renseignement également dans ces points stratégiques. Donc voilà, une atmosphère un peu bizarre
et un peu tendue. Vous parliez de la diplomatie. L'Allemagne et les États-Unis notamment demandent à leurs diplomates de quitter Beyrouth et de quitter le Liban. Comment est-ce que les Libanais de la rue, ceux qui sont autour de vous justement sur la place des Martyrs, à Abla Junaidi, réagissent aussi en fonction de leur confession?
Ouais, bien sûr. Ici, on a parlé à plusieurs familles qui sont chiites, hein, qui sont originaires de la banlieue sud, qui sont affectées par les bombardements israéliens et qui, évidemment, comme vous l'avez précisé au début de la spéciale, voient Hassan Nasrallah comme un leader charismatique, certes, mais carrément un monument sacré en fait pour la communauté chiite, un libérateur, un résistant face à Israël et donc il y a énormément de tristesse dans les cœurs. On a parlé à une dame qui était quasiment, enfin carrément en pleurs et qui disait à quel point c'était grave ce qui s'est passé hier.
Donc
et
beaucoup, à quel point beaucoup d'émotions bien évidemment à Beyrouth sur ces différents aspects. On va interroger nos spécialistes dans un instant. Et là je vous l'ai dit avec Jade Coury en ligne de Beyrouth pour RFI. Alors cet assassinat de Hassan Nasrallah vient couronner toute une série d'attaques menées par l'armée israélienne. Il y a eu la mort de Wissam Tawil, commandant de l'unité d'élite Al-Radan, en juillet celle de Fouad Chok, le chef militaire du Hezbollah, puis Ibrahim Haki, le chef de l'unité était à Rwandam, il y a 5 jours à Lika Akake, considéré comme numéro 3 du mouvement, et puis les explosions de Beeper et de Talky Walky. Alors cette dernière action a sans doute totalement désorganisé finalement le mouvement chiite au point de permettre l'action menée contre Nasrallah. Comment arriver à le localiser et à diriger les bombes israéliennes, Raphaël Jérusalmi? Je rappelle que vous êtes un ancien officier des renseignements militaires israéliens. Vous êtes là, Raphaël Jérusalmi? Alors Agnès Levallois, en tout cas...
Vous m'entendez?
Oui, je vous entends. Vous avez entendu ma question?
Oui, oui, j'ai entendu votre question. Moi, je vous entends très bien. J'espère que vous m'entendez ce
coup-ci. Oui, absolument. Donc, comment est-ce que les services de renseignement israéliens ont pu localiser Hassan Nasrallah?
Alors, d'abord, Hassan Nasrallah est surveillé depuis de nombreuses années par les services de renseignement israéliens. Il a même été localisé à plusieurs reprises, mais il y avait une décision aux politiques, puisqu'il n'y avait pas à ce moment-là de conflit armé, de ne pas le supprimer. Là, évidemment, on était à un point stratégique tel que c'était le meilleur moment possible pour le supprimer. Ce qui est important dans ce qui est arrivé, à part la prouesse, dirais-je, technique de l'élimination, c'est la complicité locale et la complicité interne. Parce qu'on vient de parler de manifestations de deuil des chiites, mais je peux vous assurer qu'il y a énormément de Libanais qui sont soulagés aujourd'hui du départ de Hassan Nasrallah. En Syrie, les opposants au régime d'Assad dansent dans les rues. Hein, ce sont les gens qui ont été très très maltraités par le régime d'Assad et la Syrie grâce à l'appui des Iraniens et du Hezbollah. Il y a donc dans le monde arabe une partie qui se réjouit, une partie qui est en deuil.
Une fois localisé,
mais donc, je rappelle cela juste pour préciser que Israël était le point plus important, a joui de complicité locale, le Libanais, et de complicité interne au sein du Hezbollah pour pouvoir accomplir cette élimination.
Et vous sous-entendez que c'est par conviction et pas simplement peut-être par appât du gain. Une fois localisé, ce sont des bombardements massifs qui ont visé à chaque fois les lieux de résidence ou de refuge des commandants du Hezbollah, cela sans tenir compte des victimes collatérales, de nombreux civils ou blessés. Comme à Gaza, Agnès Levallois, l'armée israélienne écrase tout, mettant en route une sorte de rouleau compresseur.
Oui, on peut vraiment parler de rouleau compresseur et on voit bien que la stratégie qui est menée maintenant depuis plusieurs semaines, plusieurs mois au Liban, mais plus précisément cette dernière semaine, on voit bien qu'il y a une stratégie de l'armée israélienne qui ressemble beaucoup à ce qui a été mis en place dans la bande de Gaza. Quand il y a un objectif, un responsable que l'armée a dans son viseur et souhaite viser, eh bien, quel que soit le coût de l'opération, quel que soit le nombre de civils qui vont mourir à cette occasion, eh bien, la décision est prise d'y aller. Et ça, c'est un point qui me semble extrêmement important à souligner, puisque ça veut dire que les conséquences aussi de cela risquent à terme d'être très lourdes, puisque tous ces civils qui sont tués, et on a beaucoup parlé de la question de la proportionnalité, et on voit bien clairement que dans ces différentes opérations, la proportionnalité n'est pas respectée, et donc on est aussi dans des crimes de guerre.
Point de vue de la force, Raphaël Jérusalmi, Tsahal montre qu'elle a repris la main après le choc du 7 octobre. On peut même parler de renversement de situation dans le rapport de force?
Oui, absolument. On est en train de voir le bout du tunnel. On est en train de débarrasser la planète, et pas seulement le Proche-Orient, d'horribles personnages. Je voudrais rappeler que la proportionnalité est prévue dans la Convention de Genève, le protocole numéro 1 de la Convention de Genève définit ce que c'est la proportionnalité. Et c'est pas du tout ce qui vient d'être dit. La proportionnalité, c'est lorsque vous faites une opération militaire, dans certains cas, on sait qu'il va y avoir des dommages collatéraux. Disons que dans l'élimination de Nasrallah, on démolit un immeuble, il y aura 100 civils innocents qui vont être tués. Si cette opération qui coûte la vie de 100 civils innocents peut éviter par la suite des opérations de ces terroristes qui feront des milliers de victimes, là il n'y a pas crime de guerre. C'est pas moi qui le dis, c'est le protocole 1 adjoint à la Convention de Genève.
Ce sera certainement l'objet
de... Si Hassan Nasrallah était un bienfaiteur de l'humanité, ouais. C'est non, possible qu'on vient de le laisser entendre.
En tout cas,
Hassan Nasrallah n'est pas un bienfaiteur de l'humanité.
Il y a une polémique qui fera débat de juristes, bien évidemment, quand on prend les chiffres ou quand on prend la qualité des victimes. Mais on n'aura pas le temps de rentrer dans ce débat-là ce soir. Je voudrais qu'on parle maintenant de Hassan Nasrallah. Quel que soit le regard qu'on porte sur cet homme, il marquera l'histoire comme l'un des plus coriaces ennemis d'Israël. Cet homme issu d'un milieu chiite pauvre est devenu figure centrale de la politique libanaise. Durant les trois décennies où il a dirigé le Hezbollah, il a tenu en échec l'armée israélienne à trois reprises, en 93, en 96, en 2006. Et après une longue guérilla, il l'a contraint à se retirer unilatéralement du sud de Liban. C'était en l'an 2000. Cette guerre lui a donné, Agnès Levallois, une stature de leader populaire, faisant d'ailleurs ombrage à tous les présidents et rois arabes. C'est donc un trophée que les Israéliens ont remporté.
Oui, bien sûr. Pour l'armée israélienne, il s'agit d'un succès absolument indéniable. Une prise de guerre de grande qualité dans la stratégie qui est menée par Israël et qui est d'autant plus importante, me semble-t-il, pour l'armée israélienne qu'il n'y a pas eu le même résultat dans la bande de Gaza, puisque Yahya Sinwar, qui est le chef du Hamas, n'a pas été trouvé, n'a pas été tué. Et donc, pour Netanyahou, c'est un succès et qu'il peut mettre en avant pour justifier, du coup, la stratégie qui a été celle, une fois la bande de Gaza en grande partie rasée, de s'intéresser, si je puis dire, à la frontière nord. Alors que, je le rappelle, Nasrallah avait dit à plusieurs reprises qu'il était prêt à arrêter d'envoyer des roquettes sur le nord d'Israël si un cessez-le-feu était conclu à Gaza. Parce que Nasrallah était tout à fait conscient du danger qu'il y avait pour son mouvement à mener ses opérations au nord Liban, qu'il l'avait fait en solidarité avec le Hamas au lendemain des massacres du 7 octobre, mais que Nasrallah était très conscient de la dangerosité pour lui et pour son mouvement se lancer dans cette opération.
Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'il y a eu une sorte de retenue du Hezbollah libanais depuis le 7 octobre?
Oui, pour moi c'est clair que le Hezbollah aurait pu faire beaucoup plus, mais qu'il était tout à fait conscient qu'il n'avait aucun intérêt à faire plus. Alors, je sais très bien que de dire ça, ça peut choquer, ça peut susciter la controverse, mais le Hezbollah, de par le matériel qu'il dispose, aurait pu envoyer beaucoup plus de roquettes qu'il ne l'a fait. Il en a déjà fait trop, bien évidemment, pour les villages qui étaient atteints, mais il avait conscience qu'il fallait trouver un espèce d'équilibre pour afficher sa solidarité avec le Hamas, parce qu'il y avait sa crédibilité qui était en jeu, mais en même temps, en évitant de provoquer trop. Mais il y a quelque chose qu'il n'a pas mesuré, visiblement, c'est que pendant près d'un an de bombardement sur Gaza, eh bien, Netanyahou a décidé de s'attaquer, malgré tout, au Sud-Liban pour justement permettre un retour de la stabilité à cette frontière et permettre surtout à la population d'Israël qui habite le nord d'Israël de pouvoir revenir chez elle, puisqu'on sait qu'ils sont partis depuis un an.
Alors, qui pour remplacer Nasrallah? On parle d'Hachem Safieddine, le second du Hezbollah, qui n'était pas hier dans le bâtiment, qui a été bombardé. Ce cousin, d'ailleurs, de Nasrallah, se trouve depuis 2017 sur la liste des terroristes établis par les États-Unis. Raphaël Jérusalmi, ancien officier des renseignements militaires israéliens, Tzahal cherche déjà à le cibler, je suppose.
Ben, en fait, il paraît qu'il était présent à la réunion à laquelle participait Nasrallah et qu'il aurait survécu à un hôpital de Beyrouth prétend l'avoir récupéré blessé et donc pas tué. À savoir dans quel état il est, est-ce qu'il est en état de fonctionner, il est peut-être comateux, je l'ignore. Une chose est certaine, peu importe qui va remplacer Nasrallah, quelqu'un va le remplacer et le plus vite possible, car c'est le chaos total pour l'instant dans ce mouvement. Mais nul, on peut comparer ça à l'élimination du général Soleimani des gardiens de la révolution iranienne, nul ne remplacera une personne de ce gabarit, de cette stature, on l'a rappelé, ce charisme, et c'est quand même un personnage symbolique, c'était d'abord une autorité religieuse aussi pour les chiites. Donc charisme, stature, à quoi on adjoint une expérience de longue date militaire et politique, car Nasrallah est un stratège, il n'était pas seulement un civil, mais un fin politicien qui a réussi même à s'ingérer dans la politique libanaise. C'était un stratège, il dirigeait les opérations militaires de Hezbollah. Donc il y a ici un personnage qui ne sera pas remplacé en tant que tel de par sa stature et son charisme et ce qu'il représente. Il y aura techniquement un nouveau chef du Hezbollah, mais le coup porté à ce mouvement, avec les autres coups qui ont précédé, devrait assurer quand même un affaiblissement assez conséquent de cette faction terroriste.
Vous écoutez Radio France Internationale, 18h24 en temps universel.
RFI, édition spéciale.
Philippe Le Caplin.
Et maintenant, le Hezbollah jure qu'il poursuivra sa bataille contre Israël en soutien à Gaza et à la Palestine. En a-t-il encore les moyens? Plus de chefs, des combattants touchés par les explosions et les beepers. Le mouvement chiite libanais menait une campagne donc contre l'État hébreu depuis donc le déclenchement de la guerre à Gaza. Il a été soutenu par l'Iran. Alors est-ce qu'on peut penser que Téhéran participe à une riposte désormais contre Israël et avec en voie de conséquence, un embrasement de la région Agnès Levallois de l'Institut de recherche et d'études méditerranéennes Moyen-Orient.
Alors, il est clair que l'Iran ne veut absolument pas rentrer dans cette guerre directement, ne veut absolument pas provoquer cette guerre régionale, puisque l'Iran, en fait, a tout à perdre dans un embrasement éventuel. On voit bien que l'Iran, là aussi, depuis le début de la guerre et depuis le 7 octobre de l'année dernière, en fait, évite de rentrer dans cette guerre. Il n'y a toujours pas eu de réaction de la part de l'Iran après l'assassinat d'Ismaël Haniyeh, le chef du Hamas, voilà, à Téhéran, alors que tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait une réaction. Lorsque le consulat iranien à Damas a été touché, il y a eu une riposte iranienne, mais qui a été quand même très mesurée, puisque Israël avait été prévenu à travers un certain nombre d'intermédiaires. Et donc, on voyait bien que l'objectif de l'Iran, c'était de dire « Bon, on se doit de réagir, mais on ne veut surtout pas aller trop loin, parce que ce que Téhéran sait très bien aujourd'hui, c'est que Israël ripostera s'il y a quoi que ce soit, et que derrière Israël, il y a les Américains, il y a les États-Unis, et que les États-Unis se félicitent de la disparition, de l'assassinat de Nasrallah.
Joe Biden, il a dit ce soir.
Voilà, il y a une déclaration de Biden. Et donc, l'Iran a tout à perdre à rentrer dans une guerre. Alors, la question qui est délicate pour l'Iran, c'est qu'en termes de crédibilité, quand même, ce pays se devrait de faire quelque chose. Mais que peut-il faire en sachant que le risque est énorme pour lui dans une situation où le pays est quand même très affaibli.
Raphaël Jérusalmi, à part hausser le ton, est-ce que l'Iran ne se retire pas de fait du jeu sans le dire? Car on le disait, il n'est pas venu au secours du Hamas, écrasé par l'armée israélienne. Est-ce qu'Israël renverse le rapport de force dans la région?
Oui, dans la mesure où, tout simplement, l'Iran, lorsqu'il prévoyait une possible attaque d'Israël, comptait sur l'ouverture d'un front au sud par le Hamas et d'un front au nord par le Hezbollah. C'était le coup d'envoi, dirais-je, ou les préliminaires d'une offensive iranienne. C'était d'activer le Hezbollah et le Hamas pour avoir une guerre multifrontale, peut-être aussi éventuellement les Houthis du Yémen et certaines milices en Syrie. Mais les deux points forts, principaux, essentiels pour que l'Iran se permette d'attaquer Israël, c'était le Hamas et le Hezbollah, qui aujourd'hui ne sont plus en mesure de remplir cette fonction. Et donc, tout tombe à l'eau sur le plan stratégique iranien, à quoi on doit tout de même ajouter que l'armée de l'air iranienne ne fait pas le poids avec l'armée de l'air israélienne. Les avions iraniens sont obsolètes, sont désuets. Ils en ont commandé des tout neufs aux Russes en échange des missiles qu'ils fournissent à Poutine. Mais pour l'instant, ils n'ont pas été livrés. Leur défense antiaérienne, qui est aussi russe, S-200, S-300, S-400, n'ont plus de secret pour les pilotes de combat israéliens. Ce sont des défenses antiaériennes que les Israéliens ont pu étudier grâce à des alliés comme la Grèce ou la Roumanie qui en disposent.
Donc vous confirmez, Raphaël Jérusalemi, ce que disait Agnès de Levallois à l'instant, c'est-à-dire que l'Iran n'a pas intérêt à y aller. À l'Assemblée générale des Nations Unies, la Chine vient de déclarer qu'une solution à deux États entre Israéliens et Palestiniens demeure la seule voie pour sortir des tensions qui secouent la région. Agnès de Levallois, que peut faire la diplomatie pour tordre le bras de Benjamin Netanyahu?
Il y a une seule chose que la diplomatie pourrait faire, et ça ne peut venir que des Américains qui, s'ils veulent vraiment qu'il y ait une issue politique, de dire à Netanyahou, ça y est, Gaza, vous avez rasé Gaza, maintenant le Hezbollah est démantelé, maintenant il faut arriver à une solution politique. Mais en assassinant d'un côté Haniyeh, qui était le chef politique, qui était l'homme qui négociait un éventuel cessez-le-feu, et en assassinant Nasrallah, qui est un chef militaire, mais qui était aussi, c'est reconnu par tout le monde, un chef politique avec lequel on pouvait négocier, parce que lui-même disait que si un cessez-le-feu était négocié, il arrêterait. Donc, en assassinant les responsables politiques en mesure de négocier, on voit bien qu'il n'y a plus aucune capacité et qu'il n'y a aucun plan politique élaboré de la part d'Israël pour l'après-Gaza et maintenant pour l'après-Liban. Donc, la vraie préoccupation, elle est là. Donc, si les Américains ne disent pas maintenant clairement à Netanyahou, bon, maintenant, il faut vraiment aller aux politiques, ça va durer. Et la dernière déclaration de Biden ne laisse pas penser que les États-Unis sont dans cette logique. Donc, je ne vois pas qui, aujourd'hui, pourrait exercer une vraie pression sur Israël pour les contraindre à accepter d'aller vers une solution politique. Il y a une chose qui est évidente, il n'y aura pas de règlement militaire à cette question.
Merci pour ces analyses et commentaires à tous deux. Vous écoutez Radio France Internationale dans un instant, l'actualité en Afrique.
Tout à l'heure sur RFI, Écho d'ici, Écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Et si nous vivions sans cash, ni pièces, ni billets pour échanger biens et services? C'est le rêve d'Abdeslam Alaoui, patron marocain de HPS qui dématérialise le paiement. Déjà présente dans 95 pays, cette entreprise africaine veut réduire les fractures financières.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tout à l'heure, à 23h10 TU, sur RFI.